Allô, mon nom c'est Carl. Je vis en Colombie-Britannique depuis un bout. J'ai déménagé ici du Québec en 1989, je pense. Ça fait un bon bout ici. Christian m'a demandé de m'interviewer, fait que on va voir de quoi on va parler.
On avait fait une entrevue ensemble en 2007, à l'été 2007, sur qu'est-ce qui s'était passé depuis t'es arrivé ici, comment tu t'es lié aux communautés ici, auxquelles luttes t'as participé ou qui t'ont intéressé. Puis c'est un peu la continuité aussi de cette entrevue-là aujourd'hui, puis l'actualisation de ce qui s'est passé depuis 2007.
Ah, l'interview en 2007, c'était avec mon frère. On avait parlé, je me souviens, on parlait des rassemblements anarchistes qu'on avait organisés sur Denman et les différentes choses qu'on avait participé. Depuis ces années-là, depuis 2 ans, j'ai pas mal, je mets mon énergie sur un camp autochtone dans la chaîne côtière ici, un territoire Statlium. Statlium. Ouais, toute mon énergie va là parce qu'on a commencé à construire. On construit des abris, des cabines pour réoccuper la terre. C'est une chose en solidarité. On a été invité, il y a 6-7 ans, à monter au camp. C'est un camp, le camp Chutika. Chutika, ça veut dire l'esprit de l'hiver, le winter spirit. Et ça décrit plus la région en entier. Le haut des montagnes, où est-ce qu'il y a de la neige éternelle, où est-ce que l'esprit de l'hiver vit. Le camp a été établi pour protéger les montagnes contre une station de ski d'un milliard de dollars, un demi-milliard de dollars qui allait être mis là, le Cayouche Ski Resort. Et puis, mais depuis 7 ans, la station de ski est encore sur la table. Le gouvernement veut encore la construire. Le permis environnemental a été renouvelé il y a 2 ans pour un autre 5 ans. C'est-à-dire jusqu'en 2012, je pense. Il y a encore des chances qu'ils veulent construire, ils veulent continuer à pousser, mais les investisseurs majeurs sont plus vraiment intéressés. Ils sont trop vieux, puis ils ont leur argent à Whistler puis à Sun Peaks, 2 autres stations de ski au BC. Fait que, au courant des années, la menace de la station de ski s'est un peu effacée. Et la place est tournée en résidence, en maison, parce que les gens restent. On travaille beaucoup à essayer d'inspirer les gens de la nation pour voir que c'est faisable de retourner sa terre. Actuellement, il y a une zone grise légale en ce moment au BC, que c'est très possible de réoccuper, de construire, d'occuper la terre sans se faire sans se faire crisser dehors, évincer. Ouais. Fait que, il faudrait. On essaie de prendre cette opportunité pour vraiment prendre l'avance. Hein, parce que la vallée où est-ce que le Chutika est situé, c'est une vallée qui a tout ce qui passe à travers, c'est une autoroute 99, qui fait partie de ce qu'on appelle la route de cercle. À partir de Vancouver, tu montes au nord à Whistler, tu fais le tour, puis tu reviens vers Hope, tu fais complètement un tour de touriste, whatever. Mais pour l'instant, tout ce qui passe dans la vallée, c'est. Il y a une autoroute, puis il y a un parc provincial, puis des petits parcs de forestry, de forestiers, des campgrounds juste pour aller pique-niquer. Mais il n'y a pas d'hydroélectrique, il n'y a pas de dam hydroélectrique, il n'y a pas de pylons avec des lignes électriques, tout ça. Fait que, en ce moment, à cause des Olympiques qui arrivent dans le même territoire à Whistler, il y a un gros push. Juste cet été, ils viennent de mettre 40 millions de dollars pour repaver le Duffy Lake, ils appellent ça, cette route-là. Parce qu'il y a un lac au milieu, Duffy Lake. Puis, depuis qu'ils ont repavé, depuis 3 semaines, ils ont fini le pavé. Du beau pavé neuf, toute lisse. Puis, on a vu des BMW, des Porsche, des chars de 400 000 dollars. On a vu un bateau à moteur sur le lac, dans la montagne, ce qui est interdit parce que c'est un parc, on l'a vu. Mais il y a quelqu'un qui avait un bateau à moteur là-dessus. On a vu un avion, il y a 2 semaines, on a vu un avion hydroplane, on l'a vu atterrir dans le lac. Puis il y a une compagnie de ski en hélicoptère, une compagnie qui essaie d'appliquer pour un rezonage à côté du lac pour commencer leur business de héliskiing. Fait que, je trouve qu'on est à bonne place stratégiquement pour essayer d'arrêter ça, puis commencer à remonter dans la montagne, à sortir de la réserve. Parce que, justement, ça a commencé comme un projet pour arrêter un développement. Ça tournait en place à vivre. C'était reconnu par la nation, par les 11 chefs, comme un nouveau settlement, une nouvelle place pour vivre pour la nation. Puis, tranquillement, les gens parlent de commencer à construire en dehors du camp, juste commencer à s'éparpiller, puis commencer à prendre plus de place. Fait que j'espère que ça va continuer. En ce moment, je suis en train de finir avec des amis. On finit la première cabine, solide. Il y a déjà au camp, il y a plusieurs structures, mais temporaires, plus ou moins, à part la cuisine, qui était très solide. Mais il faut quand même finir, mettre des murs à l'intérieur, puis un plancher, tout ça. Mais en ce moment, on est en train de finir. D'ici le mois d'août, on va avoir isolé la première cabine pour notre ami Doug. Puis les jeunes vont pouvoir passer l'hiver là, commencer. Ça va être une place confortable, sec et chaude. C'est ça qu'on essaie de faire, de consolider le camp. À partir de ça, on va construire une salle de bain et commencer à faire ça plus confortable pour différents groupes de gens. Parce que jusqu'à date, c'est assez rough. Vivre en haut là, faut que tu sois, c'est pas mal des jeunes puis des gars, puis c'est rough. Il n'y a pas beaucoup d'enfants. Ce qu'on veut voir, c'est des familles, des enfants, des ardeux, des aînés. On veut voir la diversité humaine, pas seulement des jeunes guerriers. Fait que c'est un projet à long terme. Comme mon ami autochtone il dit, c'est on fait ça pour le futur, on fait pas ça pour nous, parce que ça va prendre du temps. À vivre là, à interagir avec les autochtones, je réalise l'étendue du dommage fait par la colonisation, le dommage physique, émotionnel, spirituel, c'est incroyable. C'est vraiment, ces gens-là ont été, ça s'appelle le génocide. Mais jusqu'à un certain point, la même chose nous est arrivée à nous, fait que on est encore là, puis on résiste encore, puis ils vont être encore là, puis on continue, on lâche pas. Ce que j'ai appris au courant des années, c'est de persévérer, de pas lâcher. C'est pas fini tant que c'est pas fini, comme ils disent. It's not over till it's over. Puis persévérer et en même temps être patient, puis apprendre à être patient, ça m'a appris aussi que avoir de la patience, ça veut pas dire attendre. Il faut faire ce qu'on a à faire, puis les gens, quand ils sont prêts, ils vont faire ce qu'on a à faire. Parce que si on s'attend tous un après l'autre, il n'y a rien qui va se passer. Fait que quand tu es prêt, tu le fais, puis les autres, ils font leur affaire, puis ils sont inspirés par tes actions. Puis c'est le fun de voir ça. Hein. Cet été, la famille à mon chum sont venus, ses neveux, ses nièces, ses sœurs, puis quand j'ai entendu les enfants rire dans le camp, puis jouer autour de la cabine, puis utiliser les matériaux de construction pour faire des jeux, ça. Ça m'a donné de l'espoir, ça m'a fait sentir que, OK, c'est pour ça qu'on fait ça, ça se passe, ça va arriver. Hein? Mais ça, ouais, c'est le projet majeur que j'ai mis. Je mets toute mon énergie là-dedans parce que c'est assez gros. C'est de chez nous, où est-ce que je reste sur les îles, jusqu'à la montagne, c'est genre 500 km à peu près de route, plus un ferry, deux ferries. Puis c'est beaucoup d'énergie, d'effort à faire ça. C'est pour ça que je déménage. Maintenant, je déménage sur le Turtle Island, sur la terre ferme, pour pouvoir être plus proche de mes projets, de ce que je fais, mes amis. Ouais, c'est là que j'en suis pour l'instant. Puis je vais commencer à essayer d'être plus public, parler publiquement plus à propos du camp, puis spread the word, passer le mot, puis laisser savoir aux gens que ça existe. On a besoin d'aide de différentes façons. On a besoin de gens pour visiter, on a besoin de matériaux de construction, on a besoin d'informations qui se font. Puis ouais, surtout pour l'instant, depuis les dernières années, il y a eu beaucoup de Canadiens, de Blancs, comme les Autochtones ils nous appellent, puis de gens non autochtones qui vont là supporter le camp. Hein. Puis il y a quand même beaucoup de gens de la nation hein, qui montent au camp, mais c'est encore. Les gens voient le camp comme un camp d'activistes au lieu d'une maison à réoccuper, à retourner à la maison. Fait que justement, la police, les GRC sont venus au camp là, un mois à peu près, un peu harasser les gens, puis on fait de l'intimidation. Ils leur ont dit d'être des bons Indiens, de se garder calme. Mon ami s'est fait demander par la police « Qu'est-ce que tu fais ici? » Puis il leur a répondu « I'm home. Je suis à la maison, je retourne chez nous. » Puis c'est ça qui arrive. Ouais. C'est pas compliqué. Les gens retournent chez eux. Fait que c'est vraiment inspirant. Ça donne l'espoir. Puis, c'est le fun de voir ça.
C'est intéressant de voir que c'est un camp qui se développe depuis 2000 aussi, puis qui a réussi à vraiment bloquer le centre de ski qui s'est jamais construit.
Ouais, c'est ça que j'ai oublié de mentionner.
Sérieux,
ouais.
C'est quand même assez rare.
Ouais, ouais. Ce qui est arrivé, une des choses qui a aidé, c'est que les gens au camp ont réussi à demander aux 11 chefs de bande de signer un document qui refuse la station de ski. Fait que légalement, si le gouvernement a réussi à avoir un ou deux chefs de bande de leur côté, peut-être ça aurait été une bataille avec beaucoup de monde en prison, puis une grosse bataille, t'sais. Mais ça a comme donné un répit que les chefs se sont dit non, non, non. Parce qu'eux, ils ont leurs propres intérêts. Les chefs, ils se disent, on veut déjà de l'argent à cause de de Whistler, l'autre station de ski, on veut de l'argent pour ça, à cause des mines, de la foresterie, tout ça. Puis ils se disent, OK, avant qu'il y ait une nouvelle station de ski, on veut dealer avec ce qui est déjà ici dans notre territoire. Fait qu'eux, ils avaient leur propre raison de bureaucrate, puis de conseiller, de médiateur avec le gouvernement. Question d'argent en général. Mais les gens, les grassroots, les gens de la base, les gens de la terre, pour eux, c'est pas une question d'argent. C'est une question que c'est leur territoire, puis ils veulent pas de négociation. Ils veulent juste plus de développement dans leur territoire. Ouais, c'est comme tu dis, c'est bien que ça fait 8 ans que ça dure. 9 ans maintenant, mai 2001, juillet 2009. Ça fait plus que 9 ans. Puis il y a des hauts et des bas, comme n'importe quel projet à long terme. Mais c'est ça, la persévérance. On va continuer. On va voir où ça va.
Puis peut-être que tu aimerais parler aussi de... Parce que je sais que dans notre entrevue, tu parlais du développement d'une autre ski resort, Sun Peak Ski Resort,
okay,
en territoire chez Shwapmuck. Je sais pas si tu voudrais, comme, si tu sais de l'information par rapport à, comme, qu'est-ce qui se passe dans la communauté chez Shwapmuck près de Chase, ou avec les gens avec qui tu avais contact à ce moment-là. Ou...
OK. J'ai quand même perdu un peu contact avec beaucoup de ces gens-là. Je les vois de temps en temps. J'ai un ami dans ce coin-là qui m'a envoyé un email au printemps, puis il veut reconnecter. Fait qu'on va se voir cet été. J'entends pas mal à travers d'autres gens, puis l'Internet, ce qui se passe en haut-là. Comme au printemps, les Sequapmuck, ils ont réoccupé, ils ont pas occupé, ils ont mis un camp à côté d'une autoroute, parce qu'il y avait une expansion de l'autoroute. C'est le Caribou Highway Connector, puis cette expansion-là est liée aux Olympiques, mais elle est liée surtout au Gateway Project, pour sortir les ressources de l'intérieur du BC, pour les forêts, les mines, tout, ça va tout aider à sortir les ressources. C'est ce coin-là, puis les amener sur la côte pour les amener en Asie. Fait que, ils ont mis un camp temporaire sur le bord du highway, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'en faisant l'expansion de l'autoroute, ils ont trouvé des os humains, c'était un burial ground, un cimetière autochtone. Fait que, tout de suite, les autochtones sont venus, puis ils ont bloqué ça. Ils ont dit, vous ne touchez pas un os, vous laissez ça là, il n'y a pas d'expansion. Là, je ne sais pas depuis ce temps-là qu'est-ce qui est arrivé. C'était au mois de mai, ça, au mois d'avril-mai. J'ai aucune information sur ce qui s'est passé à propos de ça, mais je sais que ces gens-là, ils lâchent pas. Hein. C'est le Wolverine, Janice, George, tout le monde, Henry, tout le monde continue. C'est leur vie, dédiée à leur terre, à leur peuple. Fait que je vais faire connexion cet été, je vais aller visiter, puis voir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin. Parce que l'année dernière, je parlais à une des personnes là, de Neskanlet, puis ils voulaient commencer à réapprendre à avoir des chevaux. Mais là, ils ont réalisé que ça prend beaucoup de matériaux, il faut faire des clôtures, il faut de l'engrais pour le champ, pour les chevaux, le pâturage, puis... Les vétérinaires, tout ça, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas une scène, fait qu'ils ont besoin d'aide. Puis, ce que je sais, c'est que l'année dernière, ils ont commencé à construire sur la réserve et en dehors de la réserve des Ishkin, c'est des maisons souterraines traditionnelles. Puis, sans acheter aucun matériau du magasin, tout ça, ils ont construit des belles maisons, des places à vivre pour sortir des maisons de la réserve, là, des bungalows construits avec des prêts à la banque. Fait que tranquillement, ils commencent à dire « OK, ben, on n'a pas besoin de prêt à la banque, on n'a pas besoin de maison en aluminium, on peut construire notre petite maison avec du cèdre puis des poteaux. Puis... » Fait que ça, c'est une chose qu'on a faite l'année dernière. Il y a une autre chose que je parlais à une femme qui vient de là, de Neskanlet, Kanahus. Elle m'expliquait comme quoi le gouvernement, avec le conseil de bande, essaie de mettre une dompe de recyclage, une espèce de dépôt de recyclage qui serait en partie une dompe de déchets, une place pour les déchets, mais pour le recyclage, l'entreposage de matériaux recyclables. Puis ça, c'est direct de sa réserve. La majorité de la réserve ne veulent pas, ce dépôt-là. Fait que l'année dernière, ils ont commencé à couper les arbres pour construire le... c'est quoi une dompe en français?
Un dépotoir.
Hein. Ouais, c'est ça, moi je me souviens. Fait que un dépotoir qui. Ils ont commencé à couper les arbres pour construire la place. Puis Kanahus, elle a été sur la route avec son bébé dans les mains, un bébé d'un an, pour arrêter les trucks. Puis là, Elle a commencé à se faire menacer avec son bébé dans les mains par les trackers. Son cousin est venu en courant. Puis elle m'a dit qu'elle a ramassé un bâton. Elle avait son bébé dans les mains. Puis elle avait un gros bâton dans les mains qui a ramassé son bord de chemin. Puis elle était prête à les arrêter. Fait que, souvent, comme ma soeur, des gens disent « Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. » Non, non, non. Puis je leur donne des exemples de même. C'est des grands-mères de 78 ans qui bloquent la route. Puis des jeunes avec un bébé dans les mains. Puis ah ouais, c'est ta terre, protège-la. Puis. Il n'y a pas de seconde pensée que ah ben je vais peut-être aller en prison. C'est, non, non, c'est ça que tu as à faire, tu le fais. Puis ça, j'admire ça de ces gens-là. Je ne peux pas donner vraiment plus d'informations sur ce qui se passe dans chaque territoire.
Est-ce que tu pourrais faire un lien entre ce qui a été vécu contre le développement de Sandpix et le développement du Caillou jusqu'à Rizou? À part le fait que bon, Sandpix est construit et le Caillou n'est pas construit.
Mais... Ben. C'est un peu la même situation, le même contexte. Parce que dans les montagnes, c'est là qu'il y a la médecine, c'est là qu'il y a les baies, c'est là qu'il y a la viande, c'est le garde-manger. Puis c'est là que l'eau, elle est, surtout l'eau, hein, parce qu'en bas de la montagne, c'est sec, hein, en général au BC. Puis les stations de ski arrivent là, pompent l'eau, mettent des égouts dans les rivières. Ils utilisent les égouts des fois pour faire de la neige artificielle, l'eau d'égout filtrée pour remettre ça sa montagne en neige artificielle. Les montagnes sont complètement dénudées avec des coupes à blanc pour les pentes de ski. Les hôtels rentrent. Puis éventuellement, ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'il y a assez de gens qui sont propriétaires de condominiums dans une station de ski, ces gens-là disent « on paye des taxes, mais on n'a pas de représentation. » Fait qu'on veut être une municipalité. Fait que Whistler est devenu une municipalité, même si c'était juste une station de ski au début. Sandpeak est en train d'appliquer pour devenir une municipalité. Fait que ça commence comme un lease de 99 ans, un loyer à payer pour 99 ans, puis renouvelable après 99 ans avec l'accord des chefs de bande, ça. Mais une fois qu'il y a assez de blancs ou de Canadiens qui propriétaires qui payent des taxes, là, oh, la représentation arrive. Puis là, on tourne en municipalité, comme ça on a le pouvoir politique autant que le reste des autres communautés. Fait que c'est ça qui se passe. Et éventuellement, c'est juste du vol de terre, mais vraiment, comment t'appelles ça, backstabbing, c'est poignard dans le dos. T'sais. Comme on est juste ici pour skier, mais non, vous êtes ici pour faire une ville. C'est ça qui arrive à la fin du compte. Fait que je suis content que. Indirectement, les chefs ont aidé à arrêter le Caillou Ski Resort en signant le document. Parce qu'en ayant les 11 signatures des 11 chefs, le gouvernement ne pouvait absolument rien faire légalement. Fait que ça a aidé. Mais les gens sont assez clairs que si ça aurait passé légalement, ça aurait été une bataille incroyable. Que ça aurait été difficile à gagner. Tout le monde aurait été en prison sans arrêt. Puis nanana. Mais les gens, en général, l'année dernière, je parlais à une personne de Nesconnet qui s'est battu contre Sandpix, puis un ami a demandé ça, qu'est-ce qui se passe avec Sandpix, puis il a dit ah, it's dead, c'est fini parce que il n'y a plus rien à faire. Tout le monde a essayé tout, ils ont construit des places, ils ont fait du sabotage, NYM, la jeunesse indienne a été là, ils ont occupé la place. En 2004, on était là, on a occupé le terrain de golf avec une cabine pendant 23 jours, c'est fait crisser dehors. Pour l'instant, je pense que les gens ont pas mal abandonné à Sandpix. Il y a de temps en temps des démonstrations légales qui se font. Ils vont là pour dire aux skieurs que vous êtes sur terre volée, puis hein, on ne vous veut pas ici. Mais j'ai été une fois à une démonstration en 2007 à Sandpix, puis c'était assez horrible. Comment les skieurs nous regardaient, puis il y en a une couple qui arrêtait, qui écoutait, puis ils faisaient des faces, puis ils riaient de nous, puis les autres s'en calissaient complètement, ils continuaient. Ouais, on allait skier, puis c'était comme. Comment désintéressés les gens étaient. Surtout, c'est basé sur la culpabilité, j'imagine. Les gens veulent se sentir coupables. Fait que, ils s'en vont, tu sais. Mais c'est assez horrible de voir l'attitude des gens, l'indifférence, puis le mépris. Hein. C'était comme, holy fuck, il y a des enfants ici, des grands-mères. T'sais, vous voulez pas écouter ce qu'on va dire? Non, non, non. C'est le Canada. C'est comme une astuce d'attitude. Là. Oh fuck. Anyway, l'ignorance au bout, mais la peur aussi, c'est la grosse peur de la culpabilité, fait que ça bloque tout. Hein. Les gens peuvent pas s'ouvrir, puis commencer à écouter, se fermer à la gueule. Puis, c'est difficile pour eux. Est-ce qu'ils payent des taxes, c'est à eux, ça leur appartient. T'sais. C'est comme payé des taxes toute ma vie. C'est le Canada, c'est à moi. C'est comme ils veulent pas comprendre, ils veulent pas en parler. Genre un exemple, l'année dernière, à la fête du Canada, le 1er juillet, avec des amis, on a fait... où est-ce que je reste? Il y a un mur de graffiti. Tout le monde peut mettre leur affaire là-dessus, c'est un mur. C'est légal, vous l'avez vu, tout le monde met leur graffiti. Puis des événements, non, c'est des événements ou un mariage ou quelqu'un, vous l'avez vu. Puis j'ai écrit... on a pris un côté, puis on avait écrit la fête du Canada, 143 ans de génocide, d'écocide et d'esclavage salarié. Ça a pris 2 heures, quelqu'un est arrivé avec de la peinture, a tout effacé. Parce qu'ils ont fait en premier, ils ont effacé le 143 ans, puis ils ont mis zéro. Puis après ça, il y a d'autres mondes. Ils sont venus, c'était une petite bataille de graffiti pendant 2-3 jours, puis finalement quelqu'un est venu, puis a tout effacé. Puis ça donne une idée du dénaillant, de dénier ce qui est arrivé. On n'en parle pas. Non, non, le Canada, c'est la meilleure place au monde. C'est comme on fuck. Anyway, c'est bon de l'autre bord de la clôture, puis de voir ça de l'autre bord. Depuis que je suis jeune, je me sens pas canadien, mais être avec les Autochtones, c'est comme holy fuck. C'est vraiment la frontière est là, puis le gun il est là, le flic il est là, puis monsieur chapeau rouge, le red coat, RCMP. Puis. Non, c'est la même chose, 1800, 1700, ça n'a pas changé, c'est la même crise d'affaires. Les moyens ont changé, les tactiques du gouvernement ont changé, mais c'est la même chose, les mêmes relations. Fait que, ouais, en termes de connexion entre Sun Peaks, puis. Shutika, il y a une bataille qui a été perdue, puis Shutika, on est peut-être en train de la gagner.
Tu parlais qu'il y avait encore... en fait, ce que ça m'a fait penser quand tu parlais de Sun Peaks, de ce que j'ai entendu, il y a une personne chère qui s'est fait arrêter pour un truc d'il y a 7 ans, tu sais, parce qu'il défendait la terre il y a 7 ans dans le contexte de comme, l'implantation de ce ski resort-là.
Ouais. Je viens juste d'apprendre ça début juin, ouais. Puis j'étais occupé, mais ouais, ils ont été le chercher, il s'est fait arrêter à Hope, ils l'ont kidnappé comme ils disent, puis le gars il a 5 enfants, il se fait charger pour des choses qui sont arrivées en 2001 à Sun Peaks, je ne sais pas c'est quoi les charges, il faut que je prenne contact avec ces gens-là, je ne suis pas sûr qu'est-ce qui se passe avec lui, s'il est encore en prison, s'il est sorti, il a eu un bail, ou comment c'est, en bail en français, comment tu veux? Tu donnes de l'argent pour sortir de prison jusqu'à ton procès.
Libération conditionnelle.
Ouais.
Avec la caution.
Caution, ouais, c'est ça. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a mis une caution pour qu'il sorte. Ce que j'ai entendu dire, c'est que sa femme, il y a des enfants ensemble, elle a reçu de l'argent pour un support légal. Puis elle s'est faite accuser de fraude par les services sociaux parce qu'elle est sur l'aide sociale. Fait qu'en ayant de l'argent pour supporter son mari en cours. Elle s'est fait charger de fraude. C'est quand... les astis, comme ils disent. Mais c'est tout ce que je suis, là, ce cas-là. Mais encore une fois, hein, ça fait longtemps que j'ai focusé maintenant. Depuis 2-3 ans, je focus sur le territoire Chitalium. J'ai comme perdu contact un peu avec les Chouchouap. Sekokma. Chouchouap, c'est le nom anglais des Sekokma. Puis encore là, une Sekokma, il y a des Anglais qui disent Sekokmek. Puis apparemment, ça, c'est la version écossaise. Puis il y a différentes façons de le prononcer, mais genre, en général, les traditionnalistes, ils appellent ça c'est les Sekwepmur. Sekwepmur Ulum, c'est la terre, le territoire. Mais je parle pas indien, fait que c'est difficile des fois. Souvenir exactement les mots. Je commence à apprendre un peu le Chitalium, certains mots. Prendre la mémoire, parce que c'est vraiment pas familier, ça. Des fois, il y a des sons que ça sonne allemand un peu, puis t'as tous les clickings dans la gorge, puis les affaires, c'est vraiment intéressant. Je commence à apprendre un peu. Une fois que je déménage dans le territoire, je veux prendre des cours de langage, de langue. Chitalium, ils les donnent aux étrangers, mais aux nouveaux venus, aux non-indiens, fait que... pouvoir apprendre un peu. Mais ce qui m'intéresse, c'est apprendre la langue pour comprendre le territoire, parce que la langue est reliée au territoire, est développée avec le territoire. Ben, comme n'importe quelle langue, que ce soit la langue du pouvoir ou la langue des gens libres, c'est toujours relié au territoire.
Ma culture. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont fait mettre dans des residential schools, tu sais. Que comme on t'arrache de où tu viens, tu sais. À la fois, comme on t'enlève ta langue et on t'enlève le territoire d'où tu viens, fait que ça, comme, ça ravage les cultures.
Ouais.
Génocide culturel.
Ouais, ça, c'est une des choses. J'ai de la misère à comprendre pourquoi les. Ben, pas vraiment difficile à comprendre, mais comment ça les Canadiens veulent pas regarder ce côté-là de l'histoire. C'est une question de propriétaire là, à qui appartient la terre. En général, je peux voir que la plupart des Canadiens, ils pensent que s'ils reconnaissent le titre autochtone, ils se sont plus chez eux, ils n'ont plus de place à vivre, il faut qu'ils retournent en Europe. Fait qu'ils veulent même pas aller là, ils veulent même pas en parler, en discuter, parce qu'ils sentent que si j'ai plus de place, si la terre n'est pas à moi en tant que Canadien, qui je suis, où je suis, où est-ce que je vais, ils n'ont plus de place, ils se sentent complètement, t'as pris le tapis en dessous des pieds, puis ils se sentent complètement perdus. Fait que c'est pour ça qu'il y a tellement d'émotions qui sortent quand on parle de ça avec des Canadiens, t'sais. Ils se sentent comme... Tu veux que je sois rien, j'ai plus rien, je suis rien, c'est comme non. T'es un être humain, puis tu bois de l'eau, tu manges, t'es ici, on prend responsabilité, puis on commence avec le début. T'sais. Pour moi, dans ma vision des choses, il faut tous qu'on retourne sur la terre. Dans le sens, il faut tous qu'on retrouve notre autonomie en relation avec la terre, avec la bouffe, l'eau, la fibre, le bois, les affaires, il faut qu'on récupère ça, notre autonomie. Puis, mais évidemment, dans un contexte colonialiste, les premiers gens qui doivent retourner, c'est les Autochtones, parce que c'est leur terre. Ils ont été enlevés de force. Hein. C'était pas une chose volontaire. T'sais. Mes parents sont venus à moitié volontaires de l'Europe. Ils sont venus sur un bateau en 62. Puis, ils auraient pu rester en France, mais je pense que c'était difficile pour eux aussi. La plupart des immigrants, c'est pas vraiment volontaire. La majorité s'échappe de la guerre. Ils s'échappent des conditions économiques horribles ou de l'oppression. Mais en même temps, il y a une différence entre les immigrants et les Autochtones, comment ils n'ont pas accès à la terre. T'sais. Fait que pour moi, c'est juste une question de travailler ensemble, de se comprendre, de communiquer, d'apprendre, d'écouter. Ça prend du temps, il y a beaucoup à apprendre. C'est une passion de ma vie. Mon aveu, c'est prendre responsabilité, tout simplement. Pour moi, la liberté, c'est être responsable de ta vie. Fait que c'est la première des choses, être responsable envers la terre, envers soi-même, puis les autres, puis ça commence. Une colonie, ben, c'est évident qu'il faut détruire l'État. Dans n'importe quelle situation, il faut commencer à démanteler l'État, mais je trouve stratégiquement, c'est une bonne chose à faire, de s'allier avec les gens de la terre, parce que il y a beaucoup de poids là, historique, il y a beaucoup de potentiel historique à développer, à renouveler, à long terme, je pense que c'est ça va être une des choses. Il y a des gens qui ne sont pas en contact avec les Autochtones parce qu'il n'y en a pas autour. Mais à la fin du compte, il faut tous qu'on deal. On est sur leur territoire. Il va tous falloir qu'on fasse face à ça. Puis qu'on comprenne, qu'on apprenne, puis qu'on partage. Parce que c'est ça que ça revient. Ça revient au partage. Pour moi, c'est une question qui, avec l'État canadien qui a été formé ici, ben, n'importe quel État, il n'y a pas de partage. C'est le capitalisme, c'est le hoarding, comme ils disent, l'accaparer, on garde pour nous, puis on donne pas, on partage pas, puis là, ça recommence, il faut recommencer le cycle de partage, puis ça commence à partager les choses dures, les choses faciles, les plaisirs, les peines, puis partager la résistance par rapport à la colonisation, au développement. Je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre, parce qu'il y a comme un mur, le racisme, c'est comme un mur très haut et très solide. Puis au Canada, c'est très, très... Le mur a été érigé dès le début. Il est très, très solide. Hein? Donc, c'est brique par brique, personne par personne, rétablir une certaine confiance, comprendre d'où on vient. Parce que tout le monde a des préjugés ou des choses. Déjà, lui, il est de même, fait qu'il doit penser de même. T'sais? Puis que ce soit comme mon chum autochtone, il disait que quand les Indiens arrivent au camp, ils voient une bande de blancs. Là, ils ont peur, comme ils sentent comme ah, check, ils nous regardent, puis ils parlent de nous, tu sais. Là, j'essaie de lui expliquer que les blancs qui vont à Chutika, ils sentent de même aussi. En tant que blancs, ils sentent coupables, puis là, ils sont comme ah, qu'est-ce que les Indiens nous regardent, puis tout le monde se sent comme ah, il faut briser la glace, il faut se parler, il faut, puis tu sais, communiquer. Mais c'est du travail, hein. On a différents langages, différentes façons de parler, de penser. La plupart d'entre nous ont été socialisés à travers les écoles. Puis c'est différent à travers les gens qui n'ont pas été socialisés dans les écoles. Ça vous fait différentes façons de relations, différentes façons de s'expliquer, de voir les choses. Là, c'est un learning process, un processus d'apprentissage. Hein. Je ne suis pas pressé. J'ai tout le temps dans le monde.
Tu parlais du fait que ça peut être simple. On se dit, j'ai fait ma job, j'ai organisé un événement ou j'ai fait telle action. Mais que c'était vraiment pas assez, puis que c'était plus aussi une bataille permanente. Je sais pas si t'as envie d'en parler un peu plus.
Ouais, ben, en étant là, ça fait 7 ans que je vais aider le camp. Puis, ça me fait penser justement à des projets à long terme comme ça. Si tu te retrouves à dealer, pas avec des événements, mais tu deals avec des individus. Tu te retrouves à connaître les gens, à partager le quotidien. Puis toutes nos névroses, comment on a été endommagé, puis tu commences à partager là. Puis là, c'est plus une question d'événement ou d'activité, mais une question de guérison, de communication, une question de créativité. C'est différent, hein, les projets à long terme, je trouve. Puis c'est plus difficile que les projets à court terme. Parce qu'à court terme, c'est comme, bon, ben, je t'aime pas, toi, on a fait le projet, je te parle plus, on se voit plus. Mais à long terme, c'est comme, tu deviens une communauté, tu deviens des amis, tu deviens des gens qui ont passé des choses à travers. Fait que c'est différent, c'est difficile, hein? C'est comme n'importe quoi, c'est comme les relations d'amis ou de famille. Puis c'est pas évident pour l'instant dans les situations, dans les conditions qu'on vit. Hein? C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est là, les choses à long terme. Comme en ce moment, ça me brise le cœur un peu de déménager de la côte, parce que ça fait 20 ans que je suis là. Tu sais, j'ai développé des relations avec les gens, avec la place, mais je peux pas vivre ce que j'ai à vivre sur la côte. Faut que je déménage. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les connexions. Puis, hein, comme je proposais un plan. Nous, on peut venir au mois de juillet sur les îles, les aider à planter un jardin d'hiver, parce que sur la côte ouest, tu peux planter des légumes au mois de juillet, puis tu les récoltes tout l'hiver. Il y a à peu près 10-15 légumes que tu peux planter l'été, puis tu les récoltes tout l'hiver, même s'il neige, les poireaux, la kale, plein d'affaires que tu peux récolter tout l'hiver. Fait que ce que j'aimerais faire, c'est une gang de nous autres de l'intérieur, on va sur la côte, on aide, on fait des connexions, on aide le jardin d'hiver, puis au mois d'août, les gens de la côte viennent dans les montagnes cueillir des baies avec nous, les rencontrer, puis on échange nos projets, on fait les liens, puis tout ça. Fait que on a commencé à en parler, là. Fait que ça va peut-être se passer d'ici les prochaines années. Ça arrive déjà. Il y a beaucoup de monde qui viennent dans la montagne, qui a des baies. Puis, j'ai eu beaucoup d'aide dans le jardin sur la côte depuis des années. Mais ça, c'est une chose que je peux voir avec la subsistance, avec la bouffe. On peut connecter les projets. Puis, on commence à être un peu plus, pas nomadique, mais comme je suis tanné de vivre sédentaire, je veux dire, je deviens plus vieux. Puis j'ai besoin d'une place stable, mes chats, mes jardins, mes affaires. Mais je suis tanné d'être pris dans une propriété privée ou dans un appartement ou dans un petit jardin dans mon demi-acre ou quelque chose. Si je veux un territoire, je veux avoir des places saisonnières, je veux un camp de chasse, je veux un camp pour aller cueillir des baies, je veux une place pour jardiner, je veux puis bouger avec les saisons. De plus en plus, je réalise qu'on se demande quoi faire, qu'est-ce que je peux faire avec ma vie, puis la terre nous dit quoi faire, les saisons et la température nous dit où être, quand être. Ah, c'est le temps des baies, va chercher des baies, c'est le temps de jardiner, jardine, c'est le temps de construire parce qu'il neige pas, mais construit maintenant. Puis il n'y a plus de question à se poser, c'est comme vivre, c'est de la subsistance, c'est reprendre notre autonomie d'une façon ou d'une autre. Parce que bon, l'hiver passé, ma soeur, dépressive, s'est tensée un peu, puis elle ne savait pas quoi faire de sa vie, puis je disais, ben, écoute les saisons, tu sais, puis je trouve que c'est une vie saine, c'est comme. Tu développes une relation avec la terre qui fait que tu respectes, tu comprends, puis une communication qui s'établit avec les autres relations. Parce que souvent, ce que je trouve dans les milieux politiques européens, on parle juste, c'est anthropocentrique, c'est complètement humaniste, ça parle juste des êtres humains, de l'oppression humaine, et da-da-da. Là, il y a eu le mouvement vert environnementaliste qui s'est développé, puis il parle juste de l'environnement, juste des animaux, puis des plantes. Puis c'est comme, ben, depuis les années 60, les aînés autochtones nous ont avertis. Ils ont dit, si vous voulez vous libérer, il faut que ce soit la libération de toutes nos relations, pas seulement les êtres humains. Puis c'est ça, tranquillement, je comprends ce qu'ils veulent dire. Puis comment relier que ça. On est fait de l'air, on est fait de l'eau, on est fait de viande et de plantes. On n'est pas séparés, tu sais. Chaque fois que mes cellules sont remplies d'oxygène, on est la même chose. Comme en parlant de langue, Quoi là, sur la côte ouest, il y a une anthropologiste qui parlait de la langue, c'est une linguiste aussi, elle a appris le mandarin en Chine, puis elle est revenue sur la côte, elle vit à Alert Bay. Je lisais un article qu'elle a écrit l'hiver passé, puis elle parlait comme quoi, en Quoi là, quand tu parles de la montagne, c'est pas séparé de la personne. Il y a une façon, dans la langue, de parler que c'est la même chose. Qu'une personne peut être une montagne, et la montagne peut être une personne, puis c'est complètement face à une worldview, une perspective complètement différente que les gens civilisés. C'est quelque chose que je veux explorer, hein, tranquillement.